souhaite une excellente soirée. Au revoir.
Bienvenue à l'écoute de l'émission interactive de VOA Afrique. À votre avis, Nathalie Barge avec vous dans les studios de La Voix de l'Amérique à Washington. Au Tchad, à l'approche de l'élection présidentielle du 6 mai, le gouvernement a pris un arrêté affirmant que l'État va payer les factures d'eau et d'électricité des ménages jusqu'au 31 décembre. L'État s'engage à régler les factures à hauteur de 15 mètres cubes d'eau potable et 300 kW d'électricité par mois. Pendant ce temps, en Afrique du Sud, on manifeste contre les coupures d'eau et d'électricité. Certains ont toutefois remarqué que les coupures de courant se sont espacées ces dernières semaines, alors que le président Cyril Ramaphosa est en campagne électorale pour les élections générales du 29 mai. Alors que pensez-vous de ces mesures au Tchad? Avez-vous bénéficié vous-même de tels avantages dans votre pays? L'accès à l'eau et à l'électricité est-il garanti chez vous? Et surtout, comment le rendre universel, hein. Ce sont les questions notamment qui vous sont posées. Vous avez été nombreux à répondre finalement à cette problématique, hein, l'accès à l'eau et à l'électricité, notamment à réagir sur cette mesure du Tchad. On commence justement par un Tchadien, il est à N'Djamena, c'est Laurent Pascal.
C'est des mesures louables. Mais est-ce que réellement nous avons l'eau ou bien l'électricité à la disposition de tout le monde? C'est ça le problème. Ceux qui sont dans les provinces, beaucoup sont en train de vivre aujourd'hui avec l'eau des marigots, l'eau sale en sorte, disons. L'eau potable n'est pas accessible à tout le monde, aux Tchadiens, non du tout. Et l'électricité, même en N'Djamena, nous qui vivons en N'Djamena, il y a d'autres quartiers, vous allez voir si l'électricité vient là, une ou deux fois dans la semaine, là vous êtes bénis. Sinon, dans d'autres quartiers, il ne faut même pas en parler. On ne voit même pas de poteaux pour parler de l'électricité. Mais nous allons gratifier ces choses qui doivent être à l'intérêt de qui? Ceux qui sont dans le centre de la ville, qui bénéficient l'eau, l'électricité, ça peut les soulager. Mais ça ne peut pas soulager tous les Tchadiens. Ce que les Tchadiens attendent du gouvernement, c'est la mesure de la justice, de l'égalité. Il faut donner travail aux jeunes, aux diplômés sans emploi. C'est aussi une campagne présidentielle qui est lancée. Ça, c'est la campagne. Ça, c'est les paroles politiques.
Nous avons la réflexion de plusieurs Tchadiens aujourd'hui sur cette question, notamment celle de Youssouf Issa, réflexion donc sur le Facebook de VOA Afrique. Alors je le cite, il dit « L'État tchadien fait souffrir les citoyens au niveau national, mais sur le plan international ou dans les réseaux sociaux, il fait croire aux autres qu'on est à l'aise, même avec notre propre argent. L'État ne nous fournit pas d'eau et d'électricité comme il se doit pendant plus de deux semaines, la capitale même du Tchad était dans l'obscurité et avec la chaleur, la barre de glace est passée de 1 000 à 5 000 francs. Le gros problème, dit-il, est que l'électricité n'existe pas au Tchad. Dans notre quartier, par exemple, poursuit-il, cela fait trois semaines qu'on n'a pas d'électricité. C'est malheureux pour le pays. La population souffre énormément, dit-il. Youssouf Issa, vous avez été en effet plusieurs à partir du Tchad et autres pays à dire que l'électricité n'est pas si courante que cela. On écoute en République démocratique du Congo l'entrepreneur quinoise Caroline Poncelet.
Ce sont des mesures qui garantissent que l'État assure à chacun les conditions élémentaires. Et surtout avec ces mesures, c'est une façon pour l'État de réaliser une meilleure et bonne redistribution des richesses à toute la population. Mais la seule crainte est que ces genres de décisions ne soient prises que pour des raisons électorales. Or, c'est un des premiers droits élémentaires de l'homme qui doit quotidiennement être assuré.
Voilà la réflexion de Caroline Poncelet, donc droit élémentaire, hein, dit-elle, au niveau donc de l'accès à l'électricité et à l'eau notamment. On a à Abidjan, Côte d'Ivoire, la réflexion de Pascal Kouamé. Alors il dit, je le cite, « Cet acte dans la forme est très bien ». Donc il parle de la mesure du gouvernement tchadien, en ce sens que ce sont les populations qui en bénéficient
ici, dit-elle, mais on ne devrait pas utiliser les moyens du pays pour faire la campagne d'une personne. Il appartient aux populations de savoir faire la différence entre un faiseur de dons opportun et la personne idéale pour gouverner. C'est la réflexion de Pascal Kouamé qui est à Abidjan. On retourne au Tchad pour écouter à présent la réflexion de Aimé Dieudonné.
Je crois que la décision des autorités tchadiennes qui est de gratifier l'eau et l'électricité, ce ne sont que de poudre aux yeux, puisque à l'heure où nous sommes, il fait extrêmement chaud au Tchad, principalement en Ndjamena, et nous n'avons presque pas l'électricité. Comment on peut gratifier quelque chose qui n'existe pas? On n'a pas de l'eau, on n'a pas d'électricité, c'est des actes politiques. Quand bientôt les élections auront lieu, c'est pour amener la population à comprendre qu'ils sont en train de faire quelque chose pour pouvoir les aider. Les Tchadiens ont longtemps souffert et nous voulons que ce régime-là laisse sa place à une autre personne qui va venir arranger les choses au Tchad pour que le Tchad puisse vivre la démocratie et jouir aussi de ses ressources comme les autres pays.
C'était la réflexion de Dieudonné Aimé. Il est au Tchad. On a notamment la réflexion de Gabin Mbaya. Gabin Mbaya, alors il a écrit sur le WhatsApp de VOA Afrique, hein, je le cite, c'est juste une promesse électorale, pense-t-il. En plus de 30 ans de règne du système MPS au Tchad, l'eau et l'électricité demeurent un luxe inaccessible à la population. Il faudrait que l'électricité et l'eau puissent être disponibles avant de les rendre gratuits. L'électricité manque dans la plupart des ménages et comme pour se moquer de la souffrance du peuple, l'État décide de rendre gratuit ce qui n'existe pas. Donc c'est la réflexion de Gabin Mbaya. On va faire un petit tour au Gabon pour écouter la journaliste Raissa Oyasekou.
L'eau et l'électricité sont des biens vitaux qui contribuent au bien-être des populations. L'accès à ces ressources ainsi que leur disponibilité devrait être une préoccupation majeure pour les autorités chargées de maintenir la santé publique. Il est essentiel que l'accès à l'eau et à l'électricité fasse l'objet de politiques cohérentes et durables visant à les améliorer progressivement dans le temps. Utiliser ces enjeux comme sujet de propagande ou comme stratégie électoraliste reflète une approche politique peu honorable. Je suis convaincue que les États africains ont la capacité de fournir de l'eau et de l'électricité à la population à moindre coût. Si cela est réalisable pendant la période électorale, cela souligne que les difficultés persistantes en matière d'eau et d'électricité auxquelles les populations sont confrontées sont principalement dues à un manque de volonté politique plutôt qu'à des contraintes financières réelles.
Voilà, Raissa Oyasekou à Libreville, hein, qui parle notamment sur cette question de l'accès à l'eau et à l'électricité, de volonté politique. J'ai parlé tout à l'heure de Gabin Mbaya, qui est au Tchad. Eh bien, on écoute justement sa réflexion par orale.
Ben vraiment, ce gouvernement se manque de la population tchadienne puisque l'électricité et l'eau manquent cruellement dans les ménages tchadiens. Imaginez-vous, ça fait combien de jours que beaucoup de ménages n'ont pas eu de l'eau ni de l'électricité et l'État décide de rendre gratuit ce qui n'existe pas. Il faut que l'électricité et l'eau soient disponibles pour que cela puisse être gratuit, mais du moment où ça n'existe pas. Et on décide tout à coup, un jour, rendre cela gratuit. Et puis le moment choisi pour prendre cette décision doit nous pousser à réfléchir un peu. C'est juste une promesse politique électorale. C'est se moquer de la souffrance du peuple. Je pense qu'il faudrait d'abord rendre l'électricité disponible et l'eau disponible à tous les ménages chacun avant de rendre cela gratuit.
Voilà, c'est Gabin Mbaya qui est au Tchad. On a la réflexion également de Franklin qui est au Cameroun. Alors je le cite, il dit l'augmentation et la réduction des prix des services de base au Tchad, c'est une manipulation, pense-t-il, pour détourner l'attention des populations et de la société civile sur les élections. Au lieu de voir comment empêcher les trucages, poursuit-il, tout le monde est en train de critiquer les prix qui, pense-t-il, sont un problème secondaire. Et il termine en disant, dans un pays bien gouverné, le social ne devrait pas être un problème. C'est la réflexion de Franklin qui est au Cameroun. À présent, on peut écouter l'environnementaliste congolaise Dansia Munkakamari qui apporte une réflexion particulière justement sur en particulier l'accès à l'eau et à l'électricité.
Par rapport à l'accès à l'eau et à l'électricité au Rwanda, il y a eu beaucoup de progrès puisque 85% de la population en milieu rural a accès à l'eau potable. Toutefois, il y a encore des efforts à déployer puisque seulement 27% de la population peut faire 4 minutes ou 500 mètres pour accéder à l'eau potable. La facilitation de l'accès à l'eau implique également la promotion de l'irrigation dans l'agriculture pour promouvoir la résilience de l'agriculture face au changement climatique. Par rapport à l'électricité, actuellement, 76% de la population a accès à l'électricité, y compris l'énergie solaire, qui est une source très importante pour augmenter l'accès à l'énergie.
Voilà, donc j'ai dit que Dansila Munkakamari est congolaise, elle n'est pas congolaise, elle est rwandaise, donc elle a exposé en effet le cas notamment du Rwanda avec une couverture à l'électricité, ma foi, assez intéressante, et notamment en évoquant la question de l'énergie solaire, bien entendu, hein, sur les questions d'électricité. Alors cette fois-ci, on retourne effectivement bien en République démocratique du Congo pour écouter la réflexion d'un auditeur, c'est celle de Alain Wazambi.
C'est une bonne mesure que le gouvernement tchadien a pris pour alléger le coût financier de l'électricité et d'eau visée à ménage. Et du coup, en fait, ce sont des initiatives auxquelles la plupart des politiciens aussi, gouvernement africain, doivent prendre. Et de notre côté, desserte en eau potable est un peu difficile dans notre pays, en RDC. Et voilà, ces derniers temps, dans notre capitale, la ville de Kinshasa, les particuliers sont en train d'initier la construction de forages pour la distribution d'eau. Il y a des stations de captage qui sont construites et avec le temps, la desserte en eau et en électricité sera d'une manière permanente.
Voilà une réflexion intéressante de Alain Wazambi qui est en République démocratique du Congo, hein, qui met finalement en exergue le fait que finalement voilà, les forages entre autres sont effectués surtout selon lui donc par des entreprises privées, dirons-nous, que, plutôt que par des entreprises donc d'État. On reste en tout cas, je ne sais pas si on est en République démocratique du Congo, mais Patsy Mubalaba qui, je crois, est aux États-Unis et voyage, elle est congolaise. Écoutons sa réflexion.
Je pense que l'accès à l'eau, c'est un droit qui, selon les textes au niveau de la RDC, est garanti. Mais malheureusement, dans beaucoup de pays en Afrique, il n'y a pas de l'eau. En RDC, par exemple, beaucoup de quartiers n'ont pas d'eau et les populations doivent aller parfois dans les lacs pour puiser de l'eau. Mais c'est de l'eau qui n'est pas potable et qui est à la base de plusieurs maladies. Avec la situation, par exemple, des conflits au Nord Kivu, où des milliers de déplacés internes sont enregistrés dans notre propre pays à cause des affrontements dans la région. Beaucoup des populations qui vivent dans le camp des déplacés n'ont pas d'eau et cela est à la base de plusieurs maladies d'origine hydrique dont la diarrhée, les choléras. Je pense que le gouvernement ne devait pas se servir de l'accès à l'eau comme un élément de campagne. Et donc ça, c'est ce jouet de la population. Je pense que c'est un droit et le gouvernement a l'obligation de donner de l'eau. Donner de l'eau à la population n'est pas une faveur.
C'était la réflexion de Passy Moubalama, hein, qui rappelle effectivement, parce qu'ici on parle bien d'eau potable, hein, bien entendu de l'accès à l'eau potable, et qui rappelle que voilà, l'eau potable c'est la santé, et l'eau non potable c'est, voilà, c'est synonyme de maladie, et plusieurs maladies éventuellement. On va se rendre à présent à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire, pour écouter notre auditeur donc ivoirien, Youssouf Ouédraogo.
Une initiative est très louable, des interrogations subsistent. Vous voyez, pourquoi la période allant de maintenant au 31 décembre prochain? Le gouvernement dit pouvoir payer l'eau et l'électricité pour les ménages durant cette période donnée. Mais le gouvernement ne dit pas comment il compte compenser ces charges-là. Et quand on sait qu'à l'image de bon nombre de pays africains, notamment subsahariens, le Tchad, qui vit sous un budget déficitaire, est en quête permanente de ressources pour déjà tenir ses prémices de ses engagements de développement. Soit l'État peut assurer la gratuité en eau et en électricité au quotidien, mais refuse de l'assurer pour des raisons qui lui sont propres. Soit le pouvoir cherche tout simplement à endormir la conscience donc collective, juste le temps de parachever le braquage du pouvoir des armes aux urnes, pour ensuite asseoir une autorité autoritaire pour la suite des événements.
Ça, c'est le point de vue de Youssouf Ouédraogo, qui est à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire. On redescend plus au sud, encore donc en Afrique centrale, et précisément encore en République démocratique du Congo, pour écouter l'entrepreneur kinoise Sidi Maloukissa.
L'eau et l'électricité, c'est vraiment la vie. Alors, je pense que le Tchad, à l'approche de l'élection présidentielle, ça doit être une décision politique. Hein. On le voit dans beaucoup de pays où, à l'approche des élections, le gouvernement fait des grandes actions ou des sortes de donations comme ça. Après les élections, qu'est-ce qui arrive? Il faut des décisions ou des solutions qui sont soutenables dans le temps et qui vont rester et qui vont vraiment aider. Dans notre pays, par exemple, la RDC, malgré tout le potentiel hygrométrique en termes de quantité d'eau douce disponible ou encore des points pour construire des barrages pour l'électricité, malgré ça, nous restons quand même dans des taux très très faibles. La RDC accuse juste 26% d'accès à l'eau potable pour Kinshasa et 15% dans les provinces, ce qui est extrêmement faible vu le potentiel en eau de notre pays. Pour l'électricité aussi, c'est encore pire. Hein. L'accès à l'électricité en RDC est de moins de 10%, dont 35% dans les zones urbaines et moins de 1% dans les zones rurales. Et ça, c'est malgré la centaine de points où on peut construire des barrages électriques, un ensoleillement à l'année pour les solutions des panneaux solaires. Nous avons des zones avec du vent. Bref, on a toutes les manières possibles d'avoir l'électricité. On reste quand même un pays sous-développé parce que nous n'avons pas accès à ce minimum de vie qui est l'eau et l'électricité.
Voilà, c'était l'entrepreneur kinoise Sidi Maloukissa, qui, ma foi, a besoin d'électricité car elle a une entreprise, hein, une usine agroalimentaire. On a en ligne Jonas Tchipadi, qui est également en République démocratique du Congo. Jonas, comment allez-vous?
Bonsoir Nathalie, je vais bien et toi?
Ça va très bien. Alors, je vous laisse vous installer. On a l'impression que vous rentrez à la maison. Je ne sais pas, Jonas. Mais dans tous les cas, c'est pour notre débat sur l'accès à l'eau et l'électricité. Et donc, qu'auriez-vous finalement à dire, je ne sais pas, par rapport à votre pays ou autre, en tout cas, concernant l'accès à l'électricité et à l'eau?
Je suis disponible pour dire un petit mot.
Oui, on vous écoute, Jonas.
Je suis disponible pour dire un petit mot.
Oui, mais il faut parler parce que j'attends que vous parliez. S'il vous plaît, on est en direct, donc exprimez-vous, s'il vous plaît, rapidement.
D'accord, les décisions des mesures prises par le gouvernement tchadien pour payer tous les factures des gens pendant cette période de campagne électorale, pour moi, ce n'est pas tant de choses. Parce que si cette mesure était prise pour des bons salaires, autre chose capitale, et les peuples allaient voir que le gouvernement met toujours en place quelque chose pour leur soutenir. Parce que ces mesures que le gouvernement a prises, c'est le devoir du gouvernement d'aider sa population, de payer pour lui, de les aider dans toutes les façons. Sauf que chez nous, en RDC, quand il y avait les élections, mais on n'avait pas vu ces mesures que le gouvernement avait fait pour nous. De toute façon, on était déjà habitués avec les coupures de courant, coupures d'eau et autres, et les factures qui étaient vraiment surchargées d'autres fois, mais on s'est déjà habitués. Pour moi, les mesures prises par le gouvernement italien, ce n'est pas une grande chose. Si ces mesures étaient prises pour de bon, ça allait être une bonne chose que le peuple allait.
Oui. Merci beaucoup, Jonas. On vous dit à très bientôt. On reste en République démocratique du Congo pour écouter la réflexion de Christian Utchama.
Malheureusement, c'est toujours le ciel en fait qu'on promet des choses, en fait ça, qu'on ne réalise pas ça. Dans mon pays, de tels actes ou telles histoires n'ont jamais été faites. Chez nous, c'est toujours la promesse. On fait ceci, on fait cela, on ne s'en tient pas de ça. Et même la population demande aussi la route. On peut réhabiliter une route aujourd'hui, après qu'elle commence à se dégrader. Il faut que les gens puissent crier avant qu'on puisse arranger ça. Bon, on n'a même pas l'accès à l'électricité ni à l'eau. On se débrouille nous-mêmes avec des panneaux solaires, parfois avec des bruits.
On enchaîne tout avec Fernandez Toyou, qui est à Sokodé au Togo.
Par rapport aux mesures prises par le gouvernement tchadien, je trouve que c'est une très bonne chose. Mais si ce sont des mesures électoralistes, je dis que c'est une très mauvaise chose. Et en Afrique, malheureusement, c'est nos gouvernants qui jugent la nécessité temporelle d'aider la population. Et c'est très dommage. On ne prend pas en compte les cris de la population. Lorsque vous avez vraiment besoin que le gouvernement vous soutienne, ça ne se fait pas. Vous pouvez beau sortir, marcher, on va vous réprimer. Mais lorsqu'il s'agit de leur calcul politique, à ce moment, il faut vous amadouer, il faut vous manipuler. On instaure des choses comme ça. Maintenant, par rapport à ces mesures, est-ce qu'au Togo, il y a eu ça une fois? Oui, pendant la COVID, nous avons bénéficié de ça en 2020 par rapport à la gratuité de l'eau et de l'électricité. Est-ce que l'accès est garanti pour l'eau et l'électricité? Ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir de l'eau et de l'électricité chez soi. Et aussi, ces derniers temps, nous faisons face à des coupures anarchiques d'électricité qui nous mettent très mal à l'aise quand ça se passe, quand il y a des factures onéreuses qu'on vous apporte, ce que vous n'avez pas consommé, et c'est très choquant.
On poursuit avec la réflexion de Diarra Kanyoumé, qui est à Soninkini, au Mali.
J'ai une fois reçu les dons de l'État dans mon pays comme le Mali ici. Par rapport à l'électricité, je pense qu'il y a plusieurs populations maliennes et ils ont trouvé cette don il y a certains moments. Je pense que si je n'oublie pas, c'était le temps de Ibeka. Et puis encore, le moment que il y avait une maladie de coronavirus, ils ont venu recenser les chefs de famille. Il y a plusieurs chefs de famille qui ont trouvé une carte. Donc, pour les problèmes de Tchad, je pense que c'est une solution pour voler l'expérience de la population pour faire leur campagne. Et finalement, je pense que c'est tout.
Et on se rend tout de suite à Ouagadougou pour écouter Charles Bazema.
Je pense que c'est une bonne mesure sociale. Je pense que c'est dans le cadre de la campagne électorale pour attirer la population à voter pour le général. Et ce que le succès sera encore à postuler pour la présidence. Je pense que c'est une mesure seulement afin que les électeurs puissent penser à eux. Mais chez nous, à l'aide de Congo, par rapport à l'eau, on a déjà connu cette faveur lorsque le président Laurent Désiré Kabila était au pouvoir. Il laisse fonctionner les frais de l'eau. Hein.
Voilà, ça c'était, en fait, ce n'était pas Charles, mais c'était Alphonse Mbouaké qui est en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa. C'est à présent qu'on va écouter donc Charles Bazema à Ouagadougou, au Burkina Faso.
Et initiative de l'autorité tchadienne pour apaiser la souffrance de la population avec la gratuité de l'eau et de l'électricité est une très bonne chose. Mais la question que nous nous posons, est-ce que l'eau est disponible et le courant dans nos communes rurales? J'aurais aimé, à mon avis, que le gouvernement regarde le prix des denrées. C'est ça qui est le plus important. Nous, on ne mange pas le courant, même si elle est indispensable dans tout ce que nous faisons. Voilà, imagine dans un pays où il a délestage 5 fois. Je me demande à quoi sert la gratuité du courant et de l'eau. Dans un pays où l'eau se coupe Et c'est à 4h du matin que nous gagnons. Je me demande à quoi sert la gratuité. Et après cette gratuité, je crois que les fatigues ne seront pas faites double-double. Et la consommation va augmenter comme nous on a constaté au Burkina Faso. Pendant la COVID-19, l'électricité, l'eau était gratuite. Mais après, les gens ont constaté une augmentation qui ne dit pas son nom.
C'était donc la réflexion de Charles Bazema pour terminer, qui est à Ouagadougou, au Burkina Faso. Avec vous pour cette émission, à votre avis, c'était Nathalie Barge. À la production, on avait Joselle Morissin. Restez avec nous pour la suite de nos programmes sur VOA Afrique. Bonne soirée à vous toutes et à vous tous et bon courage.